Iowa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
John Lydon en direct du studio de VOA Africa à Washington. Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 3 janvier 2018. À la une, RDC, passe d'armes entre le porte-parole du gouvernement et le cardinal Laurent Mossengo, archevêque de Kinshasa. Au Sénégal, le procès pour détournement de fonds publics de Khalifa Sall, ancien maire de Dakar et opposant à Macky Sall, renvoyé au 23 janvier. Les migrants africains persona non grata en Israël, ils sont appelés à quitter le pays au risque d'aller en prison. Les deux Corées veulent se parler. Pyongyang a annoncé l'ouverture ce mercredi du canal de communication avec Séoul. Et dans 10 minutes, l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Au Sénégal, le procès pour détournement de fonds publics du maire de Dakar, Khalifa Sall, opposant au président sénégalais Macky Sall, et de 7 de ses collaborateurs a de nouveau été reporté pour le 23 janvier à la demande de la défense. Le procès de cette personnalité phare de la vie politique sénégalaise, très attendu à 1 an de la présidentielle, avait été une première fois renvoyé à son ouverture le 14 décembre. Khalifa Sall et plusieurs responsables financiers doivent répondre des dépenses non justifiées de plus de 2,7 millions d'euros prélevées sur plusieurs années, selon la justice, dans les caisses de la mairie de Dakar, toute chose qu'il nie. Kinshasa se félicite de la rigueur et de la fermeté des forces de sécurité lors des marches anti-Kabila de dimanche. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, s'en est pris à l'archevêque de Kinshasa, Laurent Mossengo, et a dénoncé la violence des propos du prélat tenus la veille. Le point avec Eddie Isango.
Les forces de l'ordre et de sécurité ont, selon Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, respecté les mots d'ordre des rigueurs, des fermetés et des conformités au droit international humanitaire dans la gestion des marches du 31 décembre 2017. Lambert Mende qualifie des déclarations politiques d'une rare violence les propos que l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Mossengo, a tenus la veille sur les violences des forces de l'ordre lors des dites marches. Usant du terme « barbarie » pour décrire la répression de la marche pacifique, Monseigneur Mossengo a la veille déclaré qu'il était temps que la vérité l'emporte sur les mensonges systémiques que les médiocres dégagent et que règne la paix, la justice en RDC. Les bilans de la marche est au centre d'une polémique. La police qui affirmait jusque-là qu'il n'y avait pas de morts a admis aujourd'hui qu'il y en a eu au moins 5, mais tous des enfants de rue et des membres de la milice Kamuinansapu accusés dans les violences au Kasaï. L'ONU aussi donne les mêmes bilans d'au moins 5 morts, mais les organisateurs parlent des 12. L'ONU et l'Union européenne dénoncent les violences des droits de l'homme. La Fédération internationale des chrétiens pour l'abolition de la torture exige une enquête.
Toujours à propos de la RDC, l'Union européenne a dénoncé ce mercredi le recours à la violence et le blocage des médias par les autorités congolaises, regrettant une grave atteinte à la liberté d'expression face aux actions populaires demandant une alternance à la tête du pays. La Guinée équatoriale affirme avoir déjoué un coup d'État préparé fin décembre par un groupe de mercenaires étrangers pour le compte de partis de l'opposition radicale. D'après le ministre de la Sécurité, un groupe de mercenaires tchadiens, soudanais et centrafricains ont infiltré certaines localités du pays le 24 décembre dernier pour attaquer le chef de l'État. Une accusation immédiatement dénoncée comme un montage par le principal parti d'opposition. Un nouvel attentat suicide ciblant une mosquée a frappé le nord-est du Nigeria ce mercredi. Bilan 14 morts. Le point avec Abdourahmane Dia.
Selon un travailleur humanitaire et deux membres des forces de sécurité, l'attaque a eu lieu dans la ville de Gamboru, dans l'état de Borno. L'attentat s'est produit pendant la prière de l'aube, selon des témoins. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais porte la marque de Boko Haram, qui a souvent recours aux attentats suicides perpétrés par des femmes ou des enfants. Un membre d'un groupe d'autodéfense interrogé par l'AFP a indiqué que seul le muezzin a survécu à l'attentat et que plusieurs corps étaient encore sous les débris, laissant penser que le bilan pourrait s'alourdir. En 2014, le groupe Boko Haram s'était emparé de la ville de Gamboru, un hub commercial près de la frontière avec le Cameroun. La ville avait été reprise 1 an plus tard par les troupes nigérianes avec l'aide des forces tchadiennes. Hier, Aboubakar Shekau, le chef de Boko Haram, est réapparu dans une nouvelle vidéo dans laquelle il a revendiqué les récentes attaques ayant secoué le nord-est du Nigeria. Selon les estimations des Nations Unies, plus de 20 000 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'insurrection de Boko Haram en 2009 et plus de 2 500 000 ont été déplacées par le conflit.
On reste au Nigeria pour signaler qu'un millier de personnes ont envahi Makurdi, capitale de l'état de Benue, dans l'est du pays pour protester contre les tueries de ces derniers jours perpétrées par des éleveurs nomades peuls contre des fermiers. Les tueries qui ont eu lieu dans l'état de Benue lundi et mardi ont fait plus de 20 morts, selon le gouverneur Samuel Ortom, une cinquantaine selon la presse locale. Le premier ministre éthiopien Haïlé Mariam a promis mercredi de libérer un certain nombre d'hommes politiques emprisonnés et de fermer une prison où la torture serait régulièrement pratiquée. Il a précisé que les individus déjà condamnés seraient graciés et que les accusations seraient abandonnées pour ceux en instance de jugement. Mais il n'a donné aucune indication du nombre de gens concernés, ni n'a précisé si cette mesure s'étendrait aux milliers de personnes considérés comme des prisonniers politiques par les défenseurs des droits de l'homme et les opposants. Nous y reviendrons en partie magazine. Israël demande aux migrants africains de quitter le pays au risque d'aller en prison. C'est un programme qui a été dévoilé aujourd'hui par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Les détails avec Raïssa Gironde.
Le programme, qui a été félicité par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aujourd'hui, ne laisse que deux choix aux migrants. Accepter la déportation volontaire ou la prison. Un ultimatum qui vise près de 40 000 migrants en situation irrégulière, principalement venus d'Érythrée et du Soudan. Ces derniers, s'ils acceptent de partir avant le mois de mars, se voient offrir un billet d'avion et près de 3 000 euros. Après cette date, il sera encore possible pour ces migrants de quitter volontairement Israël, mais une somme inférieure leur sera remise. Fin mars, ceux qui refuseront seront emprisonnés, a prévenu le ministère de l'Intérieur. Les migrants qui ne peuvent pas retourner dans leur pays respectif pour des raisons sécuritaires peuvent être déportés vers le Rwanda ou même l'Ouganda. Alors que les officiels israéliens parlent de retour volontaire, l'ONU déplore le manque de transparence de la politique migratoire israélienne et sa mise en œuvre.
Le ministre zambien des Affaires étrangères jette l'éponge. Harry Kalaba a annoncé sa démission en dénonçant une corruption croissante au sein du gouvernement. Harry Kalaba est longtemps apparu comme un successeur possible du président Edgar Lungu, qui semble disposé à tenter de se représenter en 2021, bien qu'ayant déjà accompli deux mandats, le maximum prévu par la loi.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Corée du Nord annonce vouloir rouvrir le canal de communication intercoréen au lendemain de la proposition de dialogue à haut niveau de Séoul. Les précisions avec Dilly Dico.
Les deux Corées ont remis en service aujourd'hui un téléphone rouge transfrontalier fermé depuis 2016. Selon un responsable, la conversation téléphonique a duré 20 minutes. Les deux pays ont donc décidé de continuer à jouer l'ouverture malgré les railleries du président Donald Trump. Cette remise en service survient après l'offre de dialogue de Séoul, répondant à une main tendue du dirigeant nord-coréen qui a évoqué une participation aux JO d'hiver en Corée du Sud. Kim Jong-un s'était servi lundi de son adresse du Nouvel An à la nation pour faire ce geste rarissime en direction du Sud dans un contexte de tensions croissantes. Le dirigeant nord-coréen avait également profité de ce discours pour répéter que son pays est un état nucléaire à part entière, en avertissant qu'il avait en permanence à sa portée le bouton atomique. Une déclaration qui a suscité une réaction moqueuse de la part de Donald Trump, qui affirmait dans un tweet « Le leader nord-coréen Kim Jong-un vient d'affirmer que le bouton nucléaire est sur son bureau en permanence. Informez-le que moi aussi j'ai un bouton nucléaire, mais il est beaucoup plus gros et plus puissant que le sien, et il fonctionne. »
Le Congrès américain ouvre sa session 2018 ce mercredi avec un programme chargé. Le président Donald Trump doit arriver avec la majorité républicaine et l'opposition démocrate à un compromis sur le budget et l'immigration dans les deux semaines. Première urgence, financer l'État fédéral pour éviter une paralysie des administrations. Les parlementaires ont déjà reporté 3 fois depuis septembre la date butoir, maintenant fixée au 19 janvier. Ils devront avant cette date adopter une gigantesque loi de centaines de milliards de dollars couvrant tout le gouvernement, de la défense à la santé, afin de terminer l'année budgétaire de 2018, soit jusqu'à fin septembre. En Iran, l'armée d'élite du pouvoir a proclamé aujourd'hui la fin du mouvement de contestation qui a fait 21 morts et entraîné des centaines d'arrestations depuis une semaine. Le chef des gardiens de la révolution, le général Mohamed Ali Jafari, affirme qu'un grand nombre de ce qu'il appelle « fauteurs de troubles » ont été arrêtés et qu'il y aura une action ferme contre eux. Le général Jafari a également fait valoir que des milliers de personnes avaient été entraînées par les États-Unis. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. Place à présent à la Minute Éco qui vous est présentée par Arzuma Compaoré.
Émission de titres publics sur le marché financier de l'UOMOA, c'est la Côte d'Ivoire qui cette année encore arrive en tête avec des prévisions d'émission d'un montant global de 861 milliards de francs CFA. Suivi par le Burkina Faso avec 580 milliards et le Mali 547 milliards de francs CFA, selon l'Agence régionale d'appui à l'émission et à la gestion des titres publics dans l'UOMOA, agence UOMOA Titres, le volume annuel global provisoire des émissions de titres publics par adjudication au titre de l'année 2018 s'élève à 3026 milliards de francs CFA. Le Big Data ou la nouvelle ressource naturelle du 21e siècle. Les masses d'informations très volumineuses collectées aujourd'hui par les smartphones, ordinateurs, tablettes et autres interfaces en tout genre nous font entrer dans le domaine du Big Data. Comme l'explique Solomon Nassifa, directeur de la recherche d'IBM en Afrique, les données doivent être exploitées pour trouver leur valeur véritable selon des estimations de l'International Data Corporation. Aujourd'hui, ces données massives représentent une activité en pleine croissance. Elles ont généré un chiffre d'affaires de 150,8 milliards de dollars à l'échelle mondiale en 2017. Au Cameroun, les recettes budgétaires à la fin septembre 2017 s'élèvent à 2 825,8 milliards de francs CFA sur un objectif initial de 3 119,4 milliards. Des recettes budgétaires en hausse de 278,1 milliards de francs CFA, soit plus 10,9% en glissement annuel.
Nicolas Pinault est dans ce studio et c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Alors on commence par le football, J-1 avant la remise du ballon d'or africain.
Eh oui, l'Égyptien de Liverpool Mohamed Salah qui fait figure de favori devant le Sénégalais Sadio Mané et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Le trophée du ballon d'or africain 2017 sera décerné demain à Accra au Ghana. Avec la sélection égyptienne, l'attaquant de 25 ans s'est hissé jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique des Nations avant de s'incliner contre le Cameroun. Surtout, Mohamed Salah a grandement contribué à la qualification de l'Égypte pour le Mondial 2018. L'Égypte absente depuis 28 ans du Mondial. En club également, Mohamed Salah impressionne. 17 buts, il est le deuxième meilleur buteur de la Première Ligue anglaise. On rappelle que le lauréat de ce Ballon d'Or 2017 est élu par un panel de sélectionneurs et de directeurs techniques des équipes nationales africaines, des membres d'une commission de la Confédération africaine et de journalistes. D'autres trophées seront remis lors de cette cérémonie à Accra. Celui du meilleur entraîneur de l'année. 3 postulants gardent notre or à la tête du Nigeria. Hector Cuper, le sélectionneur de l'Égypte, et le Marocain Houssine Amouta, l'entraîneur du Wydad Athletic Club de Casablanca. Le WAC, vainqueur de la Ligue des Champions, briguera également le titre de club de l'année face aux Égyptiens d'Al Ahly et les Congolais du tout-puissant Mazembe.
Cédric Bakambu pourrait s'engager avec un club chinois, Nicolas.
Le joueur congolais en forme de Villarreal cette saison est sur le point de quitter le club espagnol pour un transfert imminent vers le Beijing Guoan en Chine. Si ce transfert se concrétise, Bakambu, 26 ans, deviendrait la vente la plus élevée de l'histoire de Villarreal devant le défenseur ivoirien Eric Bailly qui avait été vendu 38 millions d'euros à Manchester United en 2016.
Et puis NBA, championnat de basket nord-américain.
Oui, le double All-Star Isaiah Thomas a réussi ses grands débuts avec Cleveland en marquant 17 points lors de la victoire 127-110 des Cavaliers contre Portland. San Antonio et les Spurs l'emportent 100-91 contre les Knicks de New York. Ce succès fait de Greg Popovich le cinquième coach le plus victorieux de l'histoire de la NBA.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui présenté par John Lyndon, mise en onde de Sims Loumami. Et à présent, les dossiers du jour, et on commence par l'Éthiopie où le premier ministre Haïlé Mariam Desalegn promet de libérer les prisonniers politiques et de fermer le centre d'interrogatoire de Maïké Lawi pour le transformer en musée. Il n'a pas précisé le nombre de personnes concernées. L'Éthiopie connaît une crise politique qui a vu certains hauts fonctionnaires démissionner du parti au pouvoir après la récente répression des manifestations et des conflits ethniques meurtriers sur fond des revendications sécessionnistes. Près de 700 personnes sont mortes lors des troubles en 2015 et 2016, selon une enquête mandatée par le Parlement. Pour une analyse, Nathalie Barge a joint à Paris l'expert en questions africaines, Roland Marchal.
C'est une décision d'ouverture qu'on attendait depuis très longtemps. Je ne crois pas qu'elle suffira, mais enfin, c'est un premier geste. Elle traduit, je crois, l'intensité du débat au sein des couches dirigeantes éthiopiennes et le fait que le type de gestion qu'ils ont eu de la sphère politique depuis des années est aujourd'hui remis en cause de façon importante par les mouvements sociaux. Cette remise en cause est en fait autant basée sur l'existence de tensions sociales très forte qu'une véritable crise à l'intérieur de l'alliance qui a gouverné le pays depuis 1991.
Et comment explique-t-on finalement aussi cette annonce que le Premier ministre a fait concernant le centre d'interrogatoire de Maïké Lawi, disant qu'il le serait fermé et transformé en musée?
Je crois que le gouvernement essaye de donner des gages d'une ouverture. Bon, ils vont sans doute aller un peu plus loin. Le problème qui est posé, c'est comment est-ce qu'un régime peut continuer à gérer le pays d'une façon aussi verticaliste et aussi autoritaire, alors même que les principaux partis de la coalition sont extrêmement divisés sur leur importance respective, les uns par rapport aux autres, et également sur le modèle de développement qui doit être suivi. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit poursuivre ce modèle, entre guillemets, à la chinoise, c'est-à-dire d'État développementaliste? Est-ce qu'au contraire, il faut redonner beaucoup plus de sens aux demandes sociales de la population, et c'est-à-dire répartir autrement les fruits de la croissance? Et derrière ça, vous avez des remises en causes qui sont plus radicales, qui sont proprement politiques. Est-ce que les Tigréens, en tous les cas ceux qui sont partie prenante du Front Populaire de Libération de Tigray, qui ont de fait géré l'essentiel de l'appareil sécuritaire et de l'appareil politique, est-ce que ce monopole doit être remis en cause et quels seront les nouveaux partages du pouvoir qui vont avoir lieu à l'intérieur de la coalition et qui permettront de redonner une certaine crédibilité à ces partis politiques et à partir de là, disons, de trouver des compromis.
Roland Marchal, chargé de recherche sur les questions africaines au CNRS.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos. Et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Elle avait été annoncée en 2016. L'interdiction du commerce de l'ivoire en Chine est entrée en vigueur. Pour certains défenseurs africains de l'environnement, cette annonce est une excellente nouvelle pour les éléphants. Mais certains craignent que le marché ne se déplace vers les pays voisins. Un reportage de Gilles Grec, rendu ici par Anastasie Tudiech.
La vente légale d'ivoire ne pourra plus avoir lieu sur le territoire chinois, une mesure saluée par les écologistes qui estiment que le commerce légal a servi de couverture au marché noir, normalisant l'achat et la vente d'ivoire. Max Graham, directeur du groupe de protection d'éléphants Space for Giants, de la place pour les géants, accueille avec joie la nouvelle.
Voir la Chine prendre une telle position montre qu'il y a une nouvelle superpuissance de protection animalière dans le monde qui prend ses responsabilités au sérieux. Et nous sommes ravis, le commerce de l'ivoire est un défi immense, mais le commerce illégal de faune sauvage est un vrai défi en Asie, en Chine surtout, où certaines parties d'animaux sauvages rares sont utilisées en médecine traditionnelle. Donc, le pas de la Chine est très encourageant, le plus beau cadeau de Noël que la communauté des défenseurs de la nature pouvait recevoir.
La Chine a annoncé l'interdiction fin 2016, mais l'a rendue effective fin 2017, à la surprise de ceux qui imaginaient qu'il faudrait compter 5 ans. Les écologistes sont optimistes, même s'ils disent qu'il est trop tôt pour prédire comment la loi sera appliquée. Pour Frank Pope de Save the Elephants, Sauvons les éléphants, l'interdiction pourrait avoir un impact sur le destin des éléphants, mais il avertit.
Presser le ballon du commerce chinois va faire naître des marchés secondaires aux environs de la frontière, va faire éclore des marchés secondaires aux frontières. Et c'est déjà le cas au Vietnam, au Laos, en Birmanie et même à Hong Kong qui fonctionnent en dehors de la Chine. Tous ces lieux ont des marchés qui ont prospéré avec les menaçantes restrictions chinoises.
Comme ses collègues écologistes, Philippe Mourouti, vice-président de la protection des espèces à la Fondation pour la vie sauvage africaine, salue l'interdiction et note l'importance d'éviter un déplacement du marché. Et il ajoute que les éléphants ne seront pas les seuls bénéficiaires.
Vous savez, nous perdons environ 35 000 éléphants par an. Il y a environ 415 éléphants sur ces continents. Ce qui veut dire que dans 20 ans, à ces rythmes-là, nous n'aurons plus d'éléphants et que tous les espoirs que les Africains ont d'utiliser la vie sauvage et l'habitat naturel pour le développement, pour le tourisme dans des pays comme le Kenya, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, tous les espoirs seront dessus. C'est tellement énorme. Ce n'est pas une question d'éléphants, il s'agit aussi d'économie, du bien-être des Africains, de notre héritage. C'est donc un pas important que la Chine a fait.
Pour les écologistes, même si la lutte contre le braconnage est essentielle, à long terme, c'est l'aménagement de l'habitat qui constitue l'une des plus grandes menaces contre les éléphants. Ils recommandent aux gouvernements africains et à la Chine d'aider à amoindrir cette menace.
Et Kabadou avec vous dans Washington Forum ce jeudi 4 janvier. George Weah, élu nouveau président du Liberia, une nouvelle ère en perspective pour ce pays de près de 5 millions d'habitants. Dans son premier discours post-victoire, l'ancien footballeur dit vouloir améliorer la vie des Libériens et mettre fin à la corruption gouvernementale. Il a aussi appelé les investisseurs étrangers à venir bâtir le pays à ses côtés. L'ancien Ballon d'Or est-il à la hauteur des défis qui se présentent devant lui? Comment va-t-il pouvoir tenir ses promesses de campagne? Et fera-t-il mieux que la présidente sortante, Ellen Johnson Sirleaf? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez-moi dans Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h en temps universel.
Au Libéria, justement, le président élu George Weah a fixé ses objectifs pour son mandat de 6 ans. Il promet de rendre le pays autonome sur le plan agricole et de renouveler les infrastructures. L'ex-footballeur international a également invité les Libériens expatriés à revenir au pays. Yacouba Ouidraogo a joint le journaliste Mohamed Kenneth.
Monsieur Weah n'est pas un homme politique. Il s'est lancé dans la politique parce que, comme il est très populaire, la jeunesse, les autres populations rurales ont demandé de rentrer en politique. Donc, dans son premier discours face à la presse, il a souligné 3 choses qui sont très, très importantes. La lutte contre la corruption, l'emploi des jeunes et surtout, il a invité les Libériens de l'extérieur à retourner au Libéria.
Vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas un politique, mais il dit vouloir s'entourer d'experts et de conseillers de premier rang. Et il invite également, comme vous le disiez tantôt, les Libériens expatriés à revenir au pays. Pensez-vous que cet appel-là soit entendu?
Bien sûr. Pendant notre guerre civile ici, la plupart des intellectuels et technocrates libériens se sont exilés soit aux États-Unis, soit en Europe, soit en Asie. Il y en a qui sont revenus, mais la plupart sont restés à l'extérieur. C'est entendu, ils vont revenir.
Monsieur Weah diffère de la réforme agricole, l'un de ses principaux axes de développement. Peut-il y arriver?
Ça dépendra du soutien que la communauté internationale va apporter dans le domaine de l'agriculture. Vous savez que nous sommes un pays qui est en train de se relever la tête. L'agriculture, c'est c'est un secteur clé. Et M. Ouya a déjà, à travers l'équipe de transition qui a été mise sur place, ils ont déjà entamé des contacts pour voir s'il y aura une aide vraiment technique pour essayer d'améliorer l'agriculture sauvage.
Jusque-là, on reste dans les déclarations d'intention. Georges Ouya promet aussi de s'attacher à améliorer les infrastructures. C'est un passage obligé pour se développer.
Oui, bien sûr. On n'a même pas encore 1000 km de route bitumée au Libéria jusqu'à présent. M. Ouya sera investi officiellement le 22 janvier et après il va nommer son gouvernement et après on verra.
D'aucuns parlent d'objectifs relativement modestes pour son mandat de 6 ans. Tout est-il à faire ou à refaire au Libéria?
C'est les deux à la fois. Tout est à faire et tout est à refaire parce qu'il y a certains domaines. Le secteur minier par exemple. Le secteur minier s'était relevé mais avec la crise de Ebola, c'est complètement a complètement été mis à l'eau, le secteur minier. Donc, le secteur agricole, l'élevage, l'infrastructure, vraiment, il faut tout refaire.
Selon vous, à quel chantier faut-il s'attaquer dès maintenant?
La première des choses, il faut attaquer l'infrastructure. Le Libéria n'est pas un très grand pays, c'est un petit pays en Afrique de l'Ouest, mais de Monrovia pour aller à l'intérieur du pays, franchement, c'est difficile.
Le journaliste Mohamed Kenneth joint à Monrovia. Direction le Cameroun, où un jeune rappeur français s'effraie une place dans le paysage musical du pays. Il s'appelle Alex Ducamer et chante dans un argot camerounais, forçant ainsi l'admiration du public. Alex Ducamer a imposé son style musical et même son accoutrement depuis 2014, année de son premier titre. Son portrait avec notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap.
Nyangalement, c'est l'un des titres à succès du jeune rappeur français Alex Ducamer, le cinquième des six titres de sa carrière musicale. Nyangalement fait référence au Camerounais inconditionnel de l'amour. Le phénomène est décrit dans l'argot camerounais baptisé francam anglais, un mélange de français et d'anglais non conventionnel, usuel en milieu jeune, une source d'inspiration pour Alex Ducamer.
Wanda, je go, voilà, on mélange, je waka. Pour dire je marche comme Johnny Walker qui marche sur la bouteille de whisky. Donc moi j'ai eu un coup de foudre en fait pour cette langue très imagée, très inventive, le cam franglais. Donc je chante depuis mes débuts en cam franglais.
Le titre sorti en 2016 se danse toujours. Alex Ducamer n'en fait pas moins bien. Comme ce jour, sur le stade d'un quartier populaire de Yaoundé, il est l'invité spécial d'une structure spécialisée dans la mode, la communication et le tourisme.
Le volet tourisme, en fait, c'est ça qui a motivé notre choix d'Alex Ducamer. Parce que le fait qu'il soit blanc et qu'il chante des rimes camerounais et avec des rimes qu'on retrouve localement, surtout dans l'environnement des jeunes.
C'est en 2007 qu'Alex, un Lyonnais, a découvert le Cameroun lors d'une visite familiale. C'était le point de départ du coup de cœur pour le Cameroun.
Et moi, je suis un Camerounais d'origine française. Ouais, on voit beaucoup de Français d'origine camerounaise. Moi, je fais dans l'autre sens et je me sens très bien ici.
Congossa, le nouveau single d'Alex Ducamer ne déroge pas aux réalités du Cameroun. Congossa, c'est le monde des ragots et colportage au Cameroun. Cette intrusion en chanson d'Alex Ducamer dans le vécu des Camerounais fascine ses jeunes admirateurs.
Pour quelqu'un qui n'est pas du pays, il s'est plutôt facilement attaché au langage africain, camerounais, particulièrement l'afro. Donc, je pense que c'est quand même assez bien.
Le rappeur blanc, comme l'appellent certains, est un artiste de contact et accepté déjà par ses pairs du Cameroun.
J'ai fait un featuring il y a quelques mois avec Sadrak, qui est une des grandes plumes du hip-hop au Cameroun. Je suis à Douala, je prends beaucoup la moto, je fais des rencontres, des super rencontres. Quoi. J'étais il y a deux jours là sur la moto avec le Ben Sikiner, on s'est mis à chanter, j'ai fait découvrir mes chansons.
Au Cameroun, Alex Ducamer n'a pas d'autres activités que travailler pour l'avancement de ses projets de musique. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a décidé de briser la distance entre la France et le Cameroun en mai
2017.
Alex Ducamer a finalement pris la décision de résider au Cameroun après 6 titres. C'est à Douala, la capitale économique du Cameroun, où il multiplie des spectacles en public au milieu des gens du Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Et c'est donc Nyangalement que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui, mise en onde par Sims Lumami. Présentation John Lyndon, Calvin Ford était à la console. Merci d'avoir suivi.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.